L'Église possède ou transmet de siècle en siècle une vision ou expérience ou vie du Christ dont elle est incapable à aucun moment d'exprimer complètement la figure définitive et la richesse. Je crois que l'Église est encore une enfant. Le Christ dont elle vit est démesurément plus grand qu'elle ne se l'imagine. Et pourtant, dans des milliers d'années, quand le vrai visage du Christ se sera un peu plus découvert, les chrétiens d'alors réciteront encore, sans réticence, le credo. Tout ne m'y plaît pas également. Mais tout n'y est pas définitif. Ça bouge un petit peu de connaissance de l'histoire, nous prouve que l'Église, vraiment, ça va et vient. Et dedans, il y a ce souci de la fidélité à son Seigneur. Et en tout cas, hein, les deux choses dont nous pouvons rendre grâce, c'est que sans l'Église, nous n'aurions pas reçu le livre. Et sans l'Église, c'est-à-dire des hommes qui s'aiment et qui en sont le témoignage, nous ne pourrions pas croire que c'est vrai. Alors en cela, nous recevons la foi de l'Église. Et c'était en fait une citation de Teilhard de Chardin. Ah non, ça c'est, elle vient maintenant, je crois, hein, Joël.
Non, si, c'est ça.
C'est celle
du
dessus.
Ce que tu as lu, c'est du Teilhard.
D'accord, ok. C'est dans un texte de Florin, mais qui cite du Teilhard. Le sens du mot pur employé par l'Évangile, cœur pur, ou cœurs enflammés, ou cœur purifié, l'étymologie grecque en dessous de ce mot transposé dans notre langue signifie bien passer au feu. D'être pur, heureux les cœurs purs, c'est simplement passer au feu. La pureté, c'est là où il y a du feu qui est passé. On purifie un champ envahi de mauvaises herbes en y mettant le feu. Le prophète Isaïe dit aussi avec tous les autres que l'homme doit sans cesse se purifier, c'est-à-dire veiller à ce que ses actions soient claires, nettes, généreuses, non entachées de scories, comme l'or qu'on purifie par le feu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on le remercie et qu'on lui fasse des salamalecs. Qu'on se mette à plat ventre, qu'on passe son temps à s'occuper de lui. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il ne nous a pas créés pour lui faire des salamalecs éternels, mais pour que nous finissions par l'imiter et être purs comme il est pur. Il est évident, il est sûr, à l'évidence, que quiconque a de Dieu une fausse représentation ne pourra jamais voir que cette fausse représentation est Dieu, jamais. Quand on a une fausse représentation de Dieu, on ne voit toujours que celle-là et on ne voit jamais Dieu. Et entre autres, hein, le seul lieu où on est certain de voir les sentiments de Dieu, c'est ceux de Jésus et de Jésus crucifié. Pour sortir de tous les dieux puissants qui sont en attente et qui veulent nous contraindre à quelque chose, le seul moyen, c'est de regarder Jésus. Comment peut-il essayer de nous contraindre à quelque chose? Vous ne verrez Dieu que si vous brûlez comme lui, créez, aimez, servez comme lui. Vous ne verrez Dieu que si vous brûlez comme lui, créez, aimez, servez comme lui. Au fond, ceux qui disent ne pas voir Dieu ou qui s'en plaignent redoutent d'avoir à lui ressembler en modifiant radicalement leur façon de vivre. C'est net, hein? C'est net? Est-ce que... Voilà, le vrai problème. Mais oui, c'est moyen, c'est un bon moyen. Pas bon, on ne se mouille pas. Lucien Labertonnière. Le Christ est au centre de chaque individu humain, comme il est au centre de l'humanité tout entière. Il est l'être de tout être et vie de toute vie. Quiconque le cherche, le trouve, ou plutôt, quiconque le cherche, l'a trouvé. Ça, c'est toujours très beau. Hein. Le fait même de... C'est répondre à l'appel de se mettre à chercher. De faire « je fais le pas ». On ne t'en demande pas plus. C'est de te laisser attirer. Alors, que nous dit Thérèse aujourd'hui ? Elle qui nous accompagne d'une manière très particulière. Que dit-elle à vos cœurs ? Qu'elle va-t-elle nous dire là ? J'aurai le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire de petites sottises jusqu'à ma mort. Et si je suis humble, si je reste toute petite, voyez les petits enfants, ils ne cessent de casser, de déchirer, de tomber, tout en aimant beaucoup, beaucoup leurs parents. Les petits enfants, regarde-les. Mais bien sûr que c'est... On continue. J'aurai le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire des petites sottises jusqu'à ma mort. Si je suis humble, si je reste petite, on sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Hein? Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints. Alors là, parce que Thérèse, elle a tous les livres de piété de l'époque. Elle lit, elle s'informe, etc. Et alors là-dedans, on dit, voilà, alors on honore la Sainte Vierge qui est la reine du ciel, qui éclipse, qui efface, qui... Toutes, on ne voit plus rien, on ne voit qu'elle, parce qu'elle est tellement merveilleuse. Alors elle dit, ça m'étonne quand même. Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil, à son lever, fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange! Une mère qui voit disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Rendez compte. Je pense tout le contraire, moi. Comment lis-tu ? Quelle est ta vie à toi ? Comment tu vois Dieu ? Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. Elle travaille à ça. Et je pense, hein, et ça, c'est clair que la fraternité de l'arbre de vie, elle est... C'est elle qui travaille, c'est elle la tisseuse de la tunique sans couture. Comment faire pour que nous soyons sans couture ? C'est Marie qui fait son travail. Et plus on la laisse faire, et plus ça se fait. C'est bien de parler des prérogatives. C'est quand les choses en avant, qu'il faut vous qu'il soit le premier, des prérogatives. Mais il ne faut pas dire que cela. Et si dans un sermon, on est obligé, du commencement à la fin, de s'exclamer et de faire « Ah ! Ah ! » On en a assez. Qui sait si quelque âme n'irait pas même jusqu'à sentir alors un certain éloignement pour une créature tellement supérieure et ne se dirait pas « Si c'est cela, autant aller briller comme on pourra tout seul dans son coin. » Rendez compte. Et c'est en cela où l'Église a bien reconnu qu'elle était un docteur de l'Église. C'est-à-dire, le docteur aussi, il rectifie des choses qui ne sont pas justes. Elle rectifie des choses qui ne sont pas justes. Elle me disait que tout ce qu'elle avait entendu prêcher sur la Sainte Vierge ne l'avait pas touchée. Mais que les prêtres nous montrent donc des vertus praticables. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il faut surtout qu'on puisse l'imiter. Elle aime mieux l'imitation que l'admiration. Et sa vie a été si simple. Sa vie a été si simple que j'aime à lui chanter. L'étroit chemin du ciel, tu l'as rendu visible. Et elle disait facile. L'étroit chemin du ciel. Comment faire notre route pour vivre cette communion avec notre source, avec notre amour, d'aimer, être aimé. Comment être soi-même, grandir, prendre toute sa place, être la fleur que nous sommes, être la note que nous sommes dans le concert. Comment être cette pierre particulière qui est la nôtre. Elle dit, l'étroit chemin du ciel, tu l'as rendu visible. Elle aimait dire facile, pratique, facile, en pratiquant toujours les plus humbles vertus. J'ai remarqué que dès que vous le pouvez, vous redevenez comme autrefois. Là aussi, c'est en italique. Hein? C'est donc ça, une des religieuses qui est là et qui lui dit ça. J'ai remarqué que dès que vous le pouvez, hein, dès que vous êtes un peu moins fatigué, vous redevenez comme autrefois. Ah, ça, c'est bien vrai. Oui, quand je le peux, je fais de mon mieux pour être gai, pour faire plaisir. Dès que je le peux, je fais mon possible pour être gai, pour faire plaisir. Pierre Teilhard de Chardin. L'homme a constaté, alors c'est marrant aussi, hein, comme c'est beau la diversité d'une fraternité, c'est que quand, de temps en temps, là, quand j'ai fini, il y en a qui viennent me voir et me disent « Oh, Teilhard, qu'est-ce que c'était beau !» Et puis d'autres qui viennent me voir et me disent « Je m'endors quand j'entends Teilhard, je ne comprends rien !» C'est beau, hein? Et ça, c'est la diversité. Et ça, c'est formidable. Et nous avons besoin de tout cela. Et voilà pourquoi nous avons cela. C'est une chance merveilleuse, je trouve, d'avoir cette diversité-là. Alors, Pierre. L'homme a constaté que le groupe formé par sa race ne représentait encore qu'une masse dispersée et dormante. Les dispersés, voilà. Les individus, ignorants et passifs, n'allaient pas jusqu'au bout de leur pouvoir, leur capacité de faire et de transformer. Et la collectivité organisée, surtout où les ressources individuelles sont appelées à s'accumuler, à se soutenir, à raisonner avec une intensité et une infaillibilité sans limite, n'était pas encore constituée. Donc il s'agit de que les forces se rassemblent. Nous avons eu de merveilleux exemples de ce travail des forces qui se rassemblent avec le 18e siècle, le 19e siècle, la levée, la montée du syndicalisme, l'organisation pour qu'on ait un mode de vie qui soit celui que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il y a dans cette ligne-là, aujourd'hui, l'aventure d'Internet fait partie de cette ce que Teilhard appelle la noosphère, c'est-à-dire ce regroupement des intelligences. Je me souviens, quand j'étais petit, je cherchais beaucoup dans les bibliothèques. Il y avait des tas de trucs, je ne le trouvais pas chez moi. La télé, je ne me donnais pas grand-chose. Et donc, j'allais beaucoup dans les bibliothèques chercher. Et je me souviens, déjà à l'époque, j'avais cherché, mais c'est quoi le feu? Comment ça marche, le feu? Et donc, j'allais dans les bibliothèques chercher. Et je rêvais de quelque chose qui soit une sorte de base de données où on puisse aller chercher facilement les choses, Parce que alors moi j'arrivais, puis j'allais dans les catalogues, et puis je demandais, je faisais sortir 10, 20 livres, et puis je cherchais pendant une après-midi entière pour trouver deux phrases intéressantes. Et Internet, je suis vraiment en admiration, en remerciement de cette base de données. Aujourd'hui, je peux te dire vraiment que j'ai un souci, quelque chose que je ne comprends pas. Ça ne passe pas deux jours que j'ai ma réponse. Et je vois là, alors que certains vont dire tout ce qu'ils ont à dire, mais il y en a toujours, une générosité, mais bouleversante. Les gens partagent leur savoir gratuitement et ils mettent là. J'apprends les choses. J'ai l'impression que depuis que vraiment j'ai de l'accès rapide à Internet, j'ai dans mes capacités de connaissance, de réflexion, il y a eu un clac, une survitesse qui s'est mise en place. Je crois qu'il y a là un bond dans la noosphère de ce travail de l'intelligence entre les hommes, il y a un bond qui est fait. Et ça va avancer, ça va de plus en plus. Le phénomène qui, pour nos descendants, a des chances de dominer toute découverte, la mise en jeu définitive à notre époque des affinités interhumaines. Alors, il cherche le problème des phénomènes. C'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Teilhard nous dit qu'il y a un phénomène qui n'est pas encore totalement apparu et qui doit apparaître, c'est celui des affinités interhumaines. C'est des petites communautés chrétiennes. Il y a un pouvoir plus fort que celui de l'atome dans l'unité humaine. Et l'unité humaine, eh bien, ceux qui le portent le plus et qui doivent en être les témoins, et pour l'entraîner, ce sont les petites fraternités chrétiennes. C'est le mouvement irréversible et accéléré, irrésistible et accéléré, qui soude entre eux, peuple et individu. C'est la constitution actuellement en cours du bloc organisé humain, la prise en masse de l'humanité. Paul nous parlait du corps du Christ. Rassemblez-vous, faites l'unité, ne quittez pas votre fraternité. La prise en masse de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes des ouvriers voués à une énorme tâche. Nous nous sentons les atomes vivants d'un univers en marche. Tous ceux, en somme, qui sont les pionniers actuels de l'humanité, obéissent fondamentalement au besoin de coopérer à une grande réussite qui les dépasse. La conscience de faire grandir le monde en faisant grandir l'humanité tend à devenir un ressort normal et habituel de toute action humaine. Ça, ce sont les visionnaires. Visionnaires. Ils nous disent où le monde va. Nous en avons. Et Teilhard est l'un des visionnaires. La fécondité spirituelle se juxtaposant de plus en plus à la fécondité matérielle, fécondité spirituelle, fécondité matérielle, on voit de quoi il s'agit, et finalement pour justifier à elle seule l'union. C'est l'union qui enfante. Alors il va y avoir la réunion d'un homme et d'une femme pour que l'on ait des enfants, mais si l'on veut qu'il y ait enfantement de l'espérance, il faut de l'union. Union pour l'enfant, mais aussi union pour l'œuvre, union pour l'idée. J'avais une très belle, peut-être en lisant ça, une image qu'aime dire Roger Robert de La Roche d'Or, quand il en parle sur la fécondité spirituelle. Et il parle d'Abraham et Sarah. Et donc on nous dit dans la Bible qu'Abraham et Sarah étaient vieux et n'avaient pas d'enfants. Et il dit, en fait, c'est ça, c'est un symbole. Il n'avait pas de fécondité spirituelle parce qu'il n'était pas assez heureux. Il n'était pas assez heureux. La fécondité vient du bonheur. C'est le bonheur qui engendre. Et en fait, et on va voir toute cette affaire avec celui qui va venir, qui va s'appeler Rire. Itzhak. Hein? Isaac. Et donc, quand la fécondité vient du bonheur. Et donc, Abraham et Sarah vont se mettre à engendrer ce peuple que nous sommes, ce peuple des croyants, parce qu'ils vont devenir heureux. En tout domaine de réflexion, aussi bien religieuse que scientifique, c'est seulement en union avec tous les autres hommes que chaque homme peut espérer atteindre le bout et le fond de lui-même. Donc là, hein, c'est tellement se couper, hein, et s'unir, trouver les moyens de l'unité. Lita Basset. Dans le monde du bien et du mal, ce n'est pas un argument qui peut dissiper l'illusion, mais seulement le poids du réel que représente une personne, un vis-à-vis, l'autre. Voilà pourquoi la communauté, la fraternité chrétienne est capitale, parce que c'est le lieu des vrais vis-à-vis, et d'un lieu où on partage, d'un lieu où on vient partager, d'un lieu où on vient confronter. Hein? Et ce n'est pas des arguments, on n'est pas là pour confronter des idées, on est là pour confronter nos vies, nos tripes, nos êtres, nos engagements. Ils ne savent pas qu'ils le tuent en croyant se débarrasser du mal qu'ils ont tous subi dès la naissance. Ils ne savent pas qu'ils le tuent, alors hein, l'enfant blessé en nous, ils ne savent pas qu'ils le tuent en croyant se débarrasser du mal qu'ils ont tous subi dès la naissance et qu'ils refusent de regarder en face, chacun pour soi. Dieu s'était rendu vulnérable en se plaçant au milieu du jardin. C'est bien sur le tombeau d'Adam qu'est dressée la croix. Sur le tombeau d'Adam qu'est dressée la croix. Toutes les morts d'Adam, tous ces refus, toutes ces terribles, la croix est dressée pour faire ressusciter Adam, l'humanité. En effet, seule la croix d'un autre, alors avec la minuscule et puis de l'autre, l'autre, cet autre qui nous fait vivre, cette autre source. En effet, seule la croix d'un autre pouvait déraciner l'arbre à connaître bien et mal. La croix d'un Christ, en proie au même abîme du mal que tout être humain, mais dépréoccupé de toute maîtrise du bien et du mal jusqu'à son dernier souffle. Dépréoccupé de la maîtrise du bien et du mal. L'abîme du pardon peut seul combler l'abîme du mal. La vie libérée, graciée, n'est possible qu'au moment où la nécessité de pardonner s'enracine dans l'acceptation du mal subi de ce qui fait tomber. Ce grand aventure de celle du laisser-aller, quoi, laisser-aller. À la manière dont Jésus, sur la croix, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela vient parce qu'on a touché à l'abîme du mal et puis libéré. Pardonner de tout son cœur, c'est se retrouver tout entier. C'est laisser aller tout le mal subi et laissez le pardon combler l'abîme qui avait creusé en l'être offensé, qu'il avait creusé en l'être offensé, pour entrer dans le royaume des relations vivantes. Et c'est ça le grand problème. Les relations vivantes. Ce grand problème de la vie, du vivant. Le vivant qui est lié à la sensibilité. Et l'expérience du mal subi bloque. Et ce qui fait qu'on a des relations à moitié vivantes et à moitié mortes. Selon le témoignage biblique, il n'y a pas d'accès à la source du pardon en Dieu que par le fleuve de l'existence humaine. Et il s'agit bien de nager à contre-courant. Nager à contre-courant. L'arbre de vie, est-ce que ça va essayer de nager à contre-courant? L'ordre naturel pousse à vivre au sec, à ne pas se mouiller dans des démarches hasardeuses de pardon, donc à vivre à sec, sans relation riche avec autrui. Exercer le pouvoir humain de pardonner, c'est, dès la première plongée, nager à contre-courant. L'affirmation biblique selon laquelle Dieu est amour a pour premier sens Dieu est relation. Ça veut dire que c'est vrai, et c'est là à chaque fois où je vais faire primer la relation et les relations essentielles qui me font vivre, je peux dire que j'entre en relation avec Dieu. Comme si Dieu ne se sauvait lui-même, ne se réalisait lui-même, qu'au moment où un humain découvre en lui la source du pardon originel. Dieu se sauve. C'est-à-dire que il apparaît dans sa réalité, il est connu tel qu'il est, seulement au moment où on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui se met à sortir des processus de condamnation, de culpabilisation, mais qui pardonne, et qui se pardonne, et qui accueille un pardon qui a été donné avant la faute, qui se laisse laver les pieds. Arrête avec tout ça. Dieu t'aime. Voilà donc notre journée.